Bienvenue dans Champ d'Action, le podcast des éditions Terre Vivante qui vous donne les clés pour rendre votre quotidien plus écolo. Champ d'Action, ce sont des discussions avec des femmes et des hommes engagés et passionnés qui vous donneront, on l'espère, envie d'élargir vos horizons. Cette saison 3, nous serons plusieurs à tendre le micro. Aujourd'hui, c'est moi, Cléa, autrice et coach en cuisine bio et végétarienne, qui vous invite à nous suivre. Allez, c'est parti. Mes invités du jour ont produit 100 kilos de légumes en 100 jours sur du béton, sans terre et sans argent. Sabine Becker est ingénieure urbaniste, auteure et conférencière dans le développement personnel, dans la relation à soi, à l'autre et à la terre, ce qui l'a amenée à créer le concept de permathérapie. François Rouillet est chercheur et conférencier en agriculture urbaine, initiateur du mouvement participatif Incroyable Comestible France en 2012. Il a accompagné le développement de collectifs citoyens d'agriculture urbaine dans plus de 1200 villes au sein d'une quarantaine de pays. Waouh ! Dans leur livre En route vers l'autonomie alimentaire, paru chez Terre Vivante fin janvier 2020, peu avant la crise sanitaire, ils nous expliquent leur démarche. Je suis très contente de les accueillir aujourd'hui. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour. Merci.
Alors Sabine et François, vous êtes donc les auteurs de ce livre et puis les fondateurs de l'Université francophone de l'autonomie alimentaire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez nous raconter ce qui vous a mené jusque-là ? Peut-être François d'abord.
Oui, alors c'est simple. C'est une histoire qu'on a racontée, bien sûr, dans notre livre, En route pour l'autonomie alimentaire. C'est venu du fait que à l'époque, j'étais consultant politique publique sur l'aménagement du territoire avec la participation citoyenne. Et quand j'ai découvert que, par un film de Claude et Lydia Bourguignon sur vie et mort des sols, que nos pratiques agricoles détruisaient la vie du sol, moi qui jardine depuis mon enfance, amoureux de la nature, j'ai dit mais c'est impossible de continuer à promouvoir des politiques qui détruisent la vie du sol. Et donc la vie, la santé. Et donc là, j'ai fait mon revirement, puisque en 2012, j'ai découvert fin 2011 le mouvement Incredible Edible Todd Morden, les incroyables comestibles lancés par trois mères de famille dans une ancienne cité industrielle au nord de l'Angleterre. Et quand j'ai découvert ça, j'ai dit, mais c'est ça qu'il faut faire.
Donc, on peut peut-être dire deux mots sur ce mouvement avant.
Oui, justement, c'est des mères de famille qui ont vécu la pré-désindustrialisation du nord de l'Angleterre et donc des familles qui vivaient dans des communes comme Todd Morden où il y avait 45 000 habitants en 1900. Et en 2008, il n'y en avait plus que 14 000. Et l'économie est partie. Donc, beaucoup de pauvreté, les commerces fermés, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est là que Pamoerhorst et Marie Clear ont eu l'idée de dire « Mais on ne va pas continuer la descente aux enfers, comme ça, ça suffit, on sait cuisiner, on sait jardiner, on va partager. » Et elles ont eu l'idée d'organiser une réunion publique, c'était le 28 mars 2008, et elles s'attendaient à avoir 3-4 personnes, et il y a 60 personnes qui sont venues. Et donc, à partir de là, elle a dit, mais est-ce que vous aimeriez qu'on se mette en route pour l'autonomie alimentaire à Todd Morden ? On se donne 10 ans. Et là, tout le monde a crié de joie. Oui, on le fait. Et on va partager. Et donc, ils ont inventé l'idée de nourriture à partager, food to share. Et ils ont créé 70 lits de culture dans la commune la première année.
Ça, ce sont des carrés, en fait.
Oui, ce sont des carrés de 2 mètres sur 1 mètre, hein, des carrés de maraîchage, des carrés urbains. Parfois c'est un mètre sur un mètre, parfois c'est une jardinière. Là, ils en ont créé 70, ils ont commencé à planter des arbres fruitiers, ils ont associé les forces vives, l'école, les commerces, même le commissariat de police a participé. Et puis avec la presse, les médias, on en a parlé, ça a été étonnant. Et les touristes sont venus, les gens des villes voisines, et puis des gens de toute l'Angleterre, et puis de l'international s'est intéressé. Et ils ont fait un sondage en octobre 2011, 3 ans après, eh bien, ils étaient à 83% d'autonomie alimentaire sur un rayon de 50 miles. C'est-à-dire que les gens se sont réappropriés le pouvoir par leur assiette en disant « on va manger local à moins d'une heure de déplacement ». Forcément, les paysans de proximité qui revendaient à des coopératives avec des bas prix pour eux, là, ils vendent en direct. Donc, ils vendent plein pot. Et donc là, l'argent est redistribué localement et l'économie repart. Et en plus, ils ont inventé un tourisme pédagogique sur le food to share, nourriture à partager.
Et donc, c'est ce système-là que vous avez contribué à essaimer en France.
Voilà. Donc moi, je faisais de la veille stratégique en tant que consultant politique publique sur la sécurité alimentaire en 2011. Et j'ai découvert un article du magazine Natural News. En décembre 2011, j'ai dit, mais c'est génial, c'est ça qu'il faut faire pour la France. Et personne n'en avait jamais parlé en France, et ça fait 3 ans que ça existe. Il y a 35 communes qui le font en Angleterre, dont la ville de Leeds, Manchester, et les autres. Alors j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Marie Clear, et j'ai dit, est-ce que je peux me mettre à votre service pour développer ça? Ah bah oui, oui, c'est gratuit. Et puis surtout, le conseil, celebrate, celebrate, celebrate. Donc faites la fête. C'est de la nourriture rassemble, la nourriture donne la joie. Donc, célébrer tout ça. Donc, j'ai arrêté mon métier de consultant en janvier 2012 et je me suis mis bénévolement au service de Incredible Edible pour faire Incroyable Comestible France et le développer. Et là, je travaillais 16 heures par jour tellement il y avait de la demande. Ça a été lancé le 28 avril en France et ça s'est développé dans 1200 villes sur 40 pays. Et c'était devenu exponentiel, le développement. Voilà, en gros, la grande vague. Et pour nous, ce qu'on dit, ça a été la phase 1, la reconnexion des gens à la terre dans le partage. Puisque maintenant, on est mondialisé, la nature, c'est hors sol, c'est abstrait, les enfants ne savent pas ce que c'est que du lait dans une brique, que ça vient d'une vache, etc. Et donc, là, c'est concret. Beaucoup, beaucoup de gens ont trouvé que c'était formidable. Ça a donné une lueur d'espoir du partage, l'idée du partage, d'associer les enfants des écoles. Et pour nous, ça a été la phase 1 parce que après 3 ans en France, 3 ans et demi, les gens ont dit, mais une fois qu'on a fait ça pendant 3 ans, les bacs nourriture à partager, on fait quoi? Et il a fallu inventer la phase 2. Donc là, on a organisé avec Sabine, on s'est rencontrés à ce moment-là en 2015 et on a décidé de faire route en commun. Sabine étant urbaniste, elle avait des compétences communes sur l'aménagement du territoire. On a dit, on va mettre nos compétences en commun et les Incroyables Comestibles nous ont invités en France, au Québec, au Maroc, etc., en Tunisie. Et on a donné 60 conférences. On a recueilli les ingrédients, les conditions de réussite. Et c'est Terre Vivante qui nous a demandé, mais est-ce que vous accepteriez de raconter l'histoire dans un livre? Et grâce à Karine Maillot, qui était directrice de collection, on avait témoigné dans son ouvrage, Le Guide de la Permaculture Urbaine, déjà sur les 100 kilos de légumes en 100 jours sur du béton. Et puis, eh bien, l'aventure est partie. On a écrit ce livre et depuis maintenant, on est dans la phase 2 et de dire, on se met en route pour l'autonomie alimentaire avec toutes les explications. On a créé l'Université francophone de l'autonomie alimentaire.
On va revenir là-dessus, mais je vais d'abord me tourner vers Sabine pour qu'elle nous raconte son parcours, elle aussi.
En tant que professionnelle, donc j'étais ingénieure urbaniste et donc j'ai travaillé dans des collectivités territoriales. J'étais dans les services publics. Et je me rendais compte qu'il y avait des choses qui clochaient, parce que j'étais attachée au territoire, à la lecture des paysages, à la lecture des compréhensions d'un fonctionnement territorial, avec les gens, avec les différentes puissances à l'œuvre sur un territoire. Et je voyais bien qu'il y avait des choses qui dysfonctionnaient, qu'on essayait tout le temps de réparer, mais que ça créait autant de dégâts, parce qu'on arrivait avec des générations successives à toujours faire des corrections qui, en fait, n'apportait pas une réelle solution. Et entre autres, j'ai été à un moment donné chef de projet politique de la ville, et dans un quartier qui faisait 15 000 habitants, c'était assez important. Et j'avais pas cette clé des bacs de nourriture à partager, qu'on pouvait faire des potagers partagés en pied de tour, parce que j'avais pas encore cette information là. Et vraiment, si j'avais eu ça, j'aurais transformé les quartiers de manière beaucoup plus efficace que ce que la politique de la ville essayait de plaquer sur les personnes et sur les quartiers. Et là, quand j'ai rencontré François, ça m'a vraiment parlé, parce que j'ai compris que ce qui manquait dans toute ma pratique professionnelle, c'était bien le lien des gens à la terre, en fait. Et donc, c'est ça ce que Todd Mordon aussi a démontré. Voilà.
Vous avez créé un concept qui s'appelle la permathérapie.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Ben voilà, comme je vous ai expliqué, que ça dysfonctionnait quand même. Moi, je voyais bien entre les différents services, il y avait des gens de bonne volonté qui étaient là pour essayer de. Voilà, on était là en réunion et qu'est-ce qu'on va faire? Puis il y en a toujours un qui ça allait pas. C'était des conflits d'intérêts. C'était, vous voyez, ça dysfonctionnait. Et donc, je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche, quoi, finalement. Il y a quelque chose qui cloche parce qu'on a de bonnes intentions, mais ça ne marche pas. Et donc, ça m'a amené à travailler sur le fonctionnement mental et émotionnel des personnes, comprendre mais pourquoi on réagit comme ça. Pourquoi on est empêché de faire bien. Pourquoi on est. Qu'est-ce qui nous empêche de nous harmoniser pour que ça soit intelligent. Alors qu'en fait, on dit ouais, on pend des circulaires, on fait des tas de trucs et tout. Donc, ça m'a alertée. Et alors, du coup, les événements de la vie m'ont amené à partir à la retraite relativement tôt. Ce qui m'a permis, après, de donner mon plein potentiel dans cette recherche de compréhension du fonctionnement mental et émotionnel. Et quand j'ai rencontré François, ça m'a fait tilt parce que je me suis dit, finalement, ça doit passer par soi, finalement, la décision d'être, la décision de faire ses choix, passe par soi. Et si soit on n'est pas bien aligné, correct, avec notre intelligence, avec nos émotions, on part dans des directions qui nous font expérimenter de la souffrance, finalement. Et donc, quand j'ai vu tout ce qu'il faisait avec ça, j'ai dit, ça, c'est génial. Et donc, ça m'a donné l'idée de créer le concept de la permathérapie. C'est quelque chose d'assez simple. Donc, il consiste à prendre soin de soi, d'abord, pour voir la qualité de la relation que l'on entretient avec soi-même. Puis, en conséquence, prendre soin de l'autre et donc de voir quelle est la relation de la qualité que l'on entretient avec l'autre et donc avec la Terre. En conséquence, avec la Terre. Et comme je le dis souvent, c'est l'état de conscience qui dessine les territoires. Quand on a un territoire qui est déséquilibré, l'état de conscience des gens qui l'habitent aussi n'est pas en harmonie. Donc ça veut dire qu'il faut être en harmonie avec soi-même. Donc la permathérapie, c'est prendre soin de soi, de l'autre et de la Terre. Et donc, j'ai travaillé ce sujet-là.
Et t'as écrit un livre.
Et j'ai écrit un livre là-dessus qui est en libre téléchargement.
En libre téléchargement.
Voilà.
D'accord.
Et qui peut être édité un jour ou l'autre, si quelqu'un veut.
On donnera le lien alors en fin de l'épisode.
Oui, voilà.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être qu'il serait bon de donner une définition. L'autonomie alimentaire, qu'est-ce que c'est pour vous?
Oui. Alors, l'autonomie alimentaire, elle est liée au territoire et aux gens. C'est-à-dire, il y a l'entrée du territoire et l'entrée des gens, des personnes. Et donc, ce n'est pas l'entrée commerciale, en fait, ni économique. C'est la capacité d'un territoire à nourrir les gens qui habitent ce territoire, qui y résident, dans un périmètre suffisamment cohérent pour pouvoir offrir les produits de base qui permettent, en matière de viande, d'œufs, éventuellement de poissons, de pisciculture, et de légumes et de fruits et de céréales, d'être... d'être nourri sainement. Et donc, l'autonomie alimentaire, elle est aussi dans la durée. Ça veut dire que les modes productifs respectent les sols. Sinon, ça veut dire qu'on a besoin d'intrants extérieurs, comme les phosphates du Maroc, on va dire, pour faire vite. Donc, ça veut dire qu'il est en capacité, ce territoire, de produire en régénérant les sols et en respectant la biomasse. Donc, c'est tout un ensemble. Et aussi, les gens du territoire doivent aussi avoir cette conscience de se nourrir sainement, de savoir ce qu'ils mettent dans leurs assiettes et d'être en lien avec les producteurs. Donc, c'est ça, une autonomie alimentaire. Et donc, l'échelle, ça peut être un département, par exemple. Un département, il devrait être en capacité, vraiment, de fournir les éléments de base. Bon, c'est sûr qu'ici, dans l'Isère, il n'y aura pas des oliviers. Si on veut de l'huile d'olive, mais on peut avoir de l'huile de noix. Alors, bien sûr, on va me dire, le café ou les oranges et le chocolat, ça ne vous fait pas mourir de faim si vous n'en avez pas. Par contre, les éléments essentiels sont... Si vous ne pouvez peut-être pas manger des grenades, mais vous avez des pommes ou des poires. Donc, il faut être, avoir un regard sur une sobriété essentielle.
Les grandes familles nutritionnelles, qu'elles soient représentées à peu près.
Oui, déjà, mais au moins ne pas exiger quelque chose d'excentrique. Et donc, à ce moment-là, à l'échelle d'un département, ça devrait être acceptable, faisable. Et les départements, entre eux, peuvent avoir des ententes interdépartementales, ça, c'est possible, pour avoir qui peut plus ou moins, et avoir des échanges. Déjà, c'est pas mal. Et la nation, elle est là pour vérifier que les équilibres entre les régions, si vous avez une région qui a une calamité, qui a des inondations, de rectifier et d'avoir une répartition avec des gens intelligents qui maîtrisent leur territoire, comme des, par exemple des présidents de départements. J'allais dire conseils généraux, mais c'est des départements. Et donc, à ce moment-là, y a une organisation équilibrée qui peut se faire. Or, que constatons-nous à l'heure actuelle, c'est qu'en fait, on va privilégier les comptes d'exploitation, la partie financière de la production. C'est-à-dire, attaché à une production alimentaire, il y a une économie financière qui est. Et donc, à ce moment-là, on va dire, dans l'esprit des gens, ouais, on va exporter. C'est génial, on exporte. On a des gens, on va valoriser l'exportation. Et ça, c'est pas forcément quelque chose de bénéfique pour le territoire et pour les gens. Et ça remonte à des années, puisque les Américains, après-guerre, ils ont tout fait pour que le Japon mange le riz japonais. Et donc les Américains...
Le riz américain.
Et donc ceux qui produisaient le riz américain, ils vivaient pas, puisqu'en fait, c'est pas eux qui fixaient le prix des marchés. Ils se nourrissaient même pas, eux, avec leur propre production. Et les Japonais, ils pouvaient plus faire leur riz. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut changer. Comme on dit, on change de paradigme. Eh bien, quand on parle d'autonomie alimentaire d'un territoire, il faut enlever ces clics, ces automatismes de dire il faut exporter. Et voyons ce qu'on fait avec la richesse des gens et des territoires.
Est-ce qu'on peut la mesurer à l'heure actuelle, l'autonomie alimentaire d'un territoire français de...
Ça a été fait, ça s'est fait régulièrement par des bureaux d'études et elle est très très maigre. Très très maigre. Il y a une étude qui a été faite, ça remonte peut-être à 2016 maintenant, je ne sais pas, sur les principales agglomérations comme Nice, Toulouse, Lyon, voilà. Et ces agglomérations, elles étaient à 3%. Donc c'est très 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 limité. C'est très limité.
Moi, j'ai envie que vous me racontiez un peu vos expériences, parce que vous en avez vécu. On a dit que vous avez accompagné 1200 villes dans 40 pays. Lesquelles vous ont le plus marqué?
Alors, il y en a bien sûr beaucoup qui nous ont marqués, que ce soit aussi bien au Québec ou en Belgique. Il y a un cas qui nous a plu particulièrement, c'est tourné en Belgique. Il y a aussi des cas en France qui sont très, très beaux. On pourrait parler de Saint-Vio dans le 44. Là, actuellement, il y a la ville de Nantes qui vient de faire 50 potagers urbains dans la ville. Et on a lu un article hier comme quoi c'est les incroyables comestibles ont semé des graines et ça a pris dans l'idée de faire des paysages nourriciers. Et qui a lancé l'idée des paysages nourriciers? C'est pas moi, c'est une des mères de famille de Tom Mornon en disant « mangez vos paysages ». Et donc, dans le livre, on propose pour les politiques locales, pour les maires, les conseils municipaux, de créer un PPN, un plan paysager nourricier. C'est-à-dire, au moment de faire l'aménagement de la politique d'urbanisme, eh bien, la loi SRU de décembre 2000 n'empêche pas, dans sa politique de développement durable, de dire les arbres qu'on va planter, on va mettre des fruitiers. Et puis on va mettre des haies fruitières, et puis on va faire des potagers partagés, etc. Donc on peut faire des paysages nourriciers. Eh bien, c'est ce que Nantes a commencé à faire. Et maintenant, il y a plusieurs villes de France qui s'y lancent. Donc on a parlé tout à l'heure de Cahors. Eh bien, si on va sur le groupe Facebook Autonomie Alimentaire Cahors, on verra la métamorphose de la ville avec le maire et le préfet, les habitants qui ont inauguré la semaine dernière l'agora d'agriculture urbaine au cœur de la ville. Et donc, je disais tourner. En Belgique, c'est un cas qui nous a beaucoup plu. Pourquoi? Parce que c'est une initiative privée où un habitant a pu racheter une ancienne école préfabriquée de l'après-guerre. Il y avait 2000 mètres carrés autour de cette école et il l'a mis à disposition de la société civile pour faire une pépinière. Et donc, ils nous ont invités aux 48 heures l'agriculture urbaine et on a été stupéfaits de la beauté de cette initiative où vous avez un grand mur blanc. Et toute la ville est dessinée sur le mur avec des petits picots et des numéros qui renvoient à la ressource citoyenne partagée en matière de semences, d'alimentation, mais de transport, d'énergie, de tout ce qui est alternatif, d'art, de culture, de solidarité, de boutiques locales, etc. Et ça se gère de manière autonome. dans le partage, dans la joie, dans la bonne humeur, des petits, des anciens, des retraités, des chômeurs, des enseignants. Tout le monde est là et ça fonctionne en bonne intelligence et ça participe à créer une nouvelle culture, un nouveau lien social. Et d'ailleurs, ce cas est décrit dans notre livre « En route pour l'autonomie alimentaire » et vous verrez la Grainothèque, ils ont distribué 5400 sachets de graines là pendant la période Covid à la population locale pour faire des potagers. Donc, c'est un lieu d'éducation populaire. C'est un lieu d'entraide et de partage. Voilà pour le cas de Tournai. On a parlé de Cahors, on a parlé de Saint-Viau avec Samuel Pubert qui est employé municipal. Et là, il a fait les incroyables comestibles. Le maire, on y est allé deux fois, donner une conférence et à chaque fois, il y avait plus de monde. Et les bacs à fleurs de la ville sont transformés en bacs à légumes et en plantes aromatiques avec une petite signalétique. Donc, c'est devenu éducatif, pédagogique. Et il y a un noyau qui s'est soudé. Et même le département vient s'inspirer, les élus, les conseillers généraux, etc., conseillers départementaux. Et voilà, ça se propage. Paris a eu des belles initiatives. On est venu ici à Grenoble. Vous avez vu ce que ça a donné avec Cultivons nos toits. L'agriculture urbaine, maintenant, s'est propagée. Elle est reconnue. Et on en arrive à un nouveau stade aujourd'hui. C'est que les gens se rendent compte qu'on ne peut plus continuer dans la mondialisation, qu'il peut y avoir rupture des réseaux d'approvisionnement internationaux. Et à ce moment-là, on n'a plus rien dans l'assiette au bout de 3 jours. Et donc, les gens commencent à se réapproprier leur assiette. Et donc, la question, c'est comment je m'y prends? Et c'est là que le livre présente une feuille de route de 21 actions pour accompagner le lecteur en partant de zéro. C'est la question à laquelle on a voulu répondre. C'est la question qui revenait dans toutes nos conférences. Moi, je suis mère de famille, je suis père de famille, je suis un tel et un tel. J'y connais rien, j'ai envie de faire ça, comment je m'y prends quand on part de rien? Et donc, on s'est donné le défi de travailler avec les publics les plus fragiles, les moins de ressources possibles, et n'ayant pas de connaissances, comment on peut s'y prendre? Eh bien, on va commencer par faire une technique de lasagne, avec le jeu de la marelle et des enfants, et avec la marelle nourricière, eh bien, on fabrique un sol et on peut cultiver sur du béton. Comment on fait
concrètement? On a du béton?
Eh bien voilà, c'est simple, on a du béton. La première chose à faire, c'est de dire, de transformer le regard, voilà, et de voir ça, qu'il y a de la ressource partout autour de soi.
Oui, vous utilisez uniquement des ressources locales.
En fait, c'est pour répondre à la question, et qui fait tout à fait le lien avec ce sujet-là, ce qui m'a le plus marqué, moi, hein, c'était ça. C'est cette expérience avec François de changer de regard. Moi, j'étais en Camargue. C'est ce que c'est la Camargue? Il y a des tamaris, il y a des roseaux, qu'est-ce qu'il y a encore?
Des chevaux et des
prairies. Qu'est-ce que tu as vu, toi?
Et moi, j'ai vu les platanes, j'ai vu des tonnes de feuilles de voilà, platanes, et j'ai vu l'herbe à éléphant, là,
les roseaux.
Les roseaux.
Ce qu'on appelle les cannes de Provence.
Les cannes
donc,
de Provence.
Il m'a dit, alors on se promenait, et puis, mais quelle ressource il y a? J'ai dit, de quoi tu parles? Il me dit, il y a de la ressource ici. J'ai quoi la ressource? Et moi, lui, il savait de quoi il parlait. Mais moi, je ne savais pas ce qu'il avait dans la tête. Il m'a dit, regarde, avec tout ça, on peut fabriquer du sol. Il va expliquer. Et donc, moi, du coup, j'ai compris qu'avec n'importe quel, ce qu'on appelle maintenant la biomasse, des végétaux, des bois, des feuilles mortes, des coupes de gazon, il n'y a pas d'herbe en Camargue. Mais par contre, il y a plein de gazon. Il y a plein de parcs publics avec les gens qui tondent leur pelouse. Il y a des haies. Tout le monde taille les haies, il y a de la verdure finalement. Et donc j'ai changé de regard. Et en changeant de regard, je me suis rendu compte qu'il y avait même une forêt à côté d'Aigues Mortes, parce que c'est plutôt des étangs, c'est plutôt des zones humides. Il y a du vin, tout ça, puis les marais salants. Il y avait quand même une forêt. On est allé et il y avait donc du bois en décomposition, il y avait tout ce qu'il fallait pour faire ça. Et le deuxième changement de regard, c'est sur ce qu'on appelle les interstices de la ville. Et en fait, à chaque fois que lui il dit, tu vois, là on peut faire ça. Mais moi, j'ai dit, mais attends, arrête de toujours me montrer des trucs, moi je vois rien. Et finalement, j'ai vu, et ça peut aider les personnes. Parce qu'en fait, quand vous voyez un petit espace, on avait une terrasse au premier étage, et il y avait un tout petit espace entre deux maisons. On habitait en ville. Et là, le mur, il n'était pas collé, parce qu'autrefois, on devait laisser passer l'eau, je pense, ou un truc comme ça. Et donc, il a vu qu'il y avait de la terre. Et dès qu'il est arrivé, il a planté une vigne. Et la vigne, tout de suite, elle est allée au premier étage. Et ça a fait une treille. Et donc, il a transformé la terrasse en béton avec la ressource et les interstices de la ville. Et c'était un potager magnifique. Ouais. Et donc, c'est ça. C'est ce, moi, ce qui m'a vraiment le plus marqué dans cette expérience, c'est le changement de regard. Voir la ressource et partout, à la fois dans la biomasse et dans les interstices.
Donc, concrètement, on a un terrain vague.
Voilà. Ouais. Donc on a un terrain vague, donc on peut soit faire des coffres en bois. Nous, on avait décidé de faire un jardin mandala en forme d'arrondi parce qu'on trouvait que c'était harmonieux. Et on avait fait cela parce qu'on avait eu un contact pour faire une animation à des prisonniers. Donc on s'est dit, sur une cour de prison, qu'est-ce qu'on peut faire pour des anciens, des détenus. Et là, on nous a proposé un terrain de tennis à l'abandon. Et donc, on a fait ce jardin mandala et on a été chercher du carton d'emballage dans les poubelles de la ville. Et comme à Aigues-Mortes, il y a beaucoup de commerçants, il y a beaucoup de cartons. Le mardi soir, on passe, on remplit la voiture. Et on a mis 4 couches de carton brun sur le sol. On a arrosé, on a ramassé les feuilles de platane qu'on a broyées. On a mis 2 cm, on a arrosé. On a ramassé la poussière et le sable qu'on a mis par-dessus. On a arrosé et on avait un début de sol forestier parce que ça se mettait à composter. Et ensuite, dans le mandala, eh bien, on a fait la technique de lasagne. Donc, on a mis du bois en décomposition. Et puis, dessus, le rapport carbone-azote, brun-vert. Donc, de la matière carbonée, on a ramassé du crottin de poney. On a mis dessus. On a parlé du champ de la tondeuse.
Voilà.
Dans les quartiers de la ville, comme nous, on n'a pas de jardin, pas de terrain. Chaque fois qu'on entend bon, on appelle ça le champ de la tondeuse. Alors, on écoute où va la tondeuse. On va à la rencontre des gens, on appuie sur la sonnette. Vous avez du gazon, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous accepteriez de le partager? Ah, ben pas de problème, ça m'évitera
d'envoyer. Tout le monde est prévenu, si on entend sonner pendant qu'on passe la tondeuse, c'est peut-être vous.
Alors, on nous a donné des sacs à gravats qu'on remplissait de 70 litres de coupe de gazon, on en avait plein.
Ça.
Et puis, le gazon, c'est vert, c'est de la matière donc azotée. Et en alternant de la matière brune, carbonée, feuilles de platane broyées, ou du foin, etc. On fait la lasagne, carbone-azote. On monte jusqu'à 50 cm, on plante des pommes de terre, on paille par-dessus, on arrose bien. Et au bout de 100 jours, eh bien, les bactéries auront activé la décomposition de cette lasagne avec en plus les racines des pommes de terre qui sont des activateurs de la décomposition. Et au centre, on avait fait un jardin mandala. Au centre du mandala, on avait fait un keyhole garden. C'est un jardin en forme de trou de serrure avec une colonne d'arrosage au milieu, un compost et des cheminées d'humidification. Tout ça, c'est dessiné dans un tutoriel qui est en ligne en libre téléchargement. On a fait un film et on a calculé au bout de 100 jours entre les courges, les tomates, les pommes de terre, etc. Sur ce terrain de tennis à l'abandon, sans argent, avec que des déchets récoltés, on avait fait 100 kilos de légumes. Mais plus que ça, c'est qu'on avait construit un sol nourricier très fertile. Ça, on le montre dans le film de Marc Kahn. Et après, eh bien, vous établissez un paysage, vous pouvez cultiver à l'infini, puisque chaque fois qu'on va cultiver, on va aggrader le sol par de l'apport de strates successives.
On l'améliore.
De mulch, on l'améliore, et le sol nous en donne encore plus.
Même ce qui a été cultivé, on le remet dessus. Donc ça produit, et c'est vertueux.
C'est sans fin, voilà. Et donc ça devient un jardin-école. Et ce jardin-école, eh bien, on l'a enseigné en prison. Et quand les prisonniers, ils ont vu ça, on a dit, la lumière se rallume dans les yeux des prisonniers. Et ils nous ont dit, si on avait su ça avant, on ne serait pas en prison aujourd'hui. Et donc, effectivement, le projet pilote a été validé par l'administration pénitentiaire pour pouvoir le répandre dans d'autres prisons de France. Et que ça devient de la permathérapie. Le matin, on fait le travail sur soi, sur les blessures émotionnelles. Et l'après-midi, on fait de la permaculture. Et donc, on enseigne ça. Et donc, ils ont voté un budget pour pouvoir mettre en place un jardin thérapeutique dans la prison. Et ça, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres, puisque maintenant, on le voit, on parle de projets dans les hôpitaux, dans des cliniques, des maisons de retraite, et puis les écoles, les campus d'université. Et là, on vient de notre partenaire Fabien Tournant, qui a piloté le jardin expérimental qu'on a réalisé en Corse à Pietro dans l'agglomération d'Ajaccio. Face au succès de ce projet pilote, ce jardin avec une agora, eh bien, organise un tour de France. Et là, on lui a demandé de faire un projet pour le campus de Blois, sur l'INSA de Blois, Nature et Paysages, et de sorte à le propager sur tous les campus de France. Et les étudiants qui le désirent, c'est des formations gratuites pour les étudiants à fertiliser et à construire des jardins nourriciers de haute vitalité, de haute production, dans un temps très court, sur les campus. Et voilà, c'est ça, tout ça, c'est les actions que nous menons avec les équipes, l'Université francophone de l'autonomie alimentaire.
En fait, on porte un message qui est un peu interpellant pour les personnes, c'est de rétablir le lien avec les producteurs de nourriture, parce qu'on l'a délégué. On a complètement délégué, comme on a délégué beaucoup de choses d'ailleurs, et notamment la production de nourriture. Et à ce moment-là, le fait de faire toutes ces petites actions qui peuvent sembler parfois peanuts, quoi, par rapport à la demande de tonnes et de tonnes de nourriture, ça reconnecte les gens à la nourriture, à la préparation de la nourriture. Ça recrée un lien entre le producteur de nourriture et le consommateur. Parce que même le producteur de nourriture, il a son lien coupé avec ce qu'il produit. Quand il va faire des tonnes et des tonnes et des tonnes de tomates, par exemple, sous serre, qu'il ne peut pas vendre parce que finalement, celles d'Espagne sont arrivées avant et que lui, sa coopérative ne peut pas prendre parce que ce n'est pas possible. Donc, ça veut dire que lui-même, il est coupé du territoire, il est coupé des gens. Et les gens qui vont manger ça, ils sont aussi coupés du producteur. Donc le fait de faire ces trucs, c'est très, comment dire, voilà, ça fait changer le regard des gens et la prise de conscience. Et à ce moment-là, ça peut changer la donne complètement.
Alors concrètement, quand on est un individu, tout seul, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on se lance? Quels sont les différents niveaux d'action? Et comment on se met en action soi-même?
Eh bien, par rapport aux petits groupes de transition, on peut se mettre en groupe. En fait, c'est difficile de faire ça tout seul. Parce qu'on a des tas d'empêchements, on a des tas de barrières. Regardez quand il s'agit de changer son alimentation, comme c'est difficile, hein. Et donc, à ce moment-là, si on se met au moins à trois pour partir de l'assiette, et on se dit, on part de l'assiette, et je vais créer un groupe de transition alimentaire, déjà pour voir ce que je mets dans mon assiette. Il faut vraiment être transparent, honnête avec soi-même. Et on joue le jeu à 3 personnes, à 4 personnes, à 5 personnes. Et à ce moment-là, on dit, bon, OK, on voit ce qu'on mange, d'où ça vient. Est-ce que je l'ai cuisiné? Est-ce que c'est des plats tout préparés? Est-ce que ça passe au micro-ondes, etc. Bon. Et à partir de là, on fait ce premier regard, soit avec la nourriture. Et quand on voit ça, on se dit, tiens, est-ce que ça, je sais d'où ça vient? Est-ce que c'est qui l'a produit? Et après, ça va enclencher une dynamique pour aller à la rencontre du producteur pour voir s'il n'y a pas des jardins potagers, des jardins partagés. Et ça va ouvrir l'esprit des gens et ça va ouvrir le... Donc la première étape, ça commence par soi. C'est-à-dire, il n'y a que nous-mêmes qui pouvons prendre la décision. Je passe à l'acte, mais je vais chercher des potes, je vais chercher des copines et on va regarder ce qu'il y a dans notre assiette.
Et essayer de le changer.
Essayer de voir, déjà d'observer. Observer. Sans juger. Sans juger. J'observe ce qu'il y a là. Est-ce que je sais d'où ça vient? Est-ce que je sais le préparer? Etc. Après, il y a d'autres,
alors après,
d'autres niveaux.
On a proposé dans notre livre un exercice pour ceux qui veulent le faire, une grille d'évaluation de la provenance de la nourriture dans mon assiette. Et donc, on note où on en est. Et ensuite, on regarde les objectifs qu'on peut se fixer à l'échelle familiale. Donc, nous, on a identifié 7 niveaux d'implication dans une manière, je dirais, transversale pour... toute l'humanité, et c'est tout le monde qui a besoin de manger. Contrairement à ce qu'on nous fait croire, c'est pas quelque chose qui vient d'en haut, ça commence par en bas. Les plantes, elles poussent de bas vers le haut. Et donc là, la nourriture, ça commence par soi, ça nous concerne tous. Donc le niveau 1, c'est l'engagement personnel. Le niveau 2, c'est ce que Sabine vient de dire, le petit groupe de 3 personnes avec ses voisins, sa famille, ses voisins, c'est le groupe de transition alimentaire. Donc, 3 jusqu'à 12. À 12, le groupe est trop gros. À ce moment-là, on essaie, on fait un autre groupe. Et donc, on arrive au niveau 3. Ce sont des collectifs de quartier, dans les rues, etc. Et donc là, on passe de 12 à plusieurs dizaines, centaines. Par exemple, à 600 personnes dans une ville comme à Bayonne, eh bien, on va faire un supermarché coopératif. On va faire une AMAP. On passe à une autre échelle de la... Et donc là aussi, le livre donne des pistes de tout ce qu'il est possible de faire ensemble dans les circuits courts et avec les professionnels. Et le niveau 4, c'est la commune. Donc maintenant, on voit que de plus en plus de communes coopèrent avec les habitants pour relocaliser la production de nourriture et engager une agriculture urbaine éducative et participative. Niveau 5, c'est très important. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est l'échelle du département. Eh bien, c'est ce que Todd Mornon a fait à une heure de déplacement. Et le département, en une heure de bagnole, on a fait le tour du département. Et le département a vocation à devenir l'autorité organisatrice des équilibres de production de nourriture. Pas dans le sens du déséquilibre, mais des, au pluriel, équilibre. De sorte à ce que ce soit équilibré, la production de nourriture entre les différents producteurs et les mangeurs. Et là, on a engagé des actions avec des élus sur ce terrain-là et des conseils départementaux sont intéressés par cette réflexion parce qu'elles sont déjà, elles ont déjà été autorités organisatrices des transports, transports en commun. Eh bien, pourquoi pas autorité organisatrice de la production de nourriture. C'est tout à fait cohérent et ça pourrait créer des emplois non délocalisables. Donc là, on est au niveau 5. 6, c'est la nation, c'est la France, la Belgique, la Suisse. Et 7, c'est la communauté internationale, ce que je disais tout à l'heure. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'est plus dans des politiques et dans des stratégies internationales. On est dans du local avec ses voisins, son assiette. Et donc, on fait un poulailler partagé, on fait une petite grainothèque, on fait des semis, on fait une pépinière, un verger. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. Et donc, nous sommes en train de préparer une radio pédagogique, une web radio sur l'Université francophone de l'autonomie alimentaire, où il va y avoir des enseignements pendant les 3 ans qui vont venir, selon 6 cas de figure. Et donc, on a identifié qu'il y avait 6 situations qui concernent tout le monde. Le premier cas, c'est celui qui n'a pas d'argent, qui est à la rue. Ça peut être un SDF, un nomade, ça peut être quelqu'un qui n'a aucune ressource.
Qui est en foyer.
Qui est en foyer, voilà. La situation 2, c'est quelqu'un qui est dans un HLM et qui a la clim ou quoi, et qui n'a pas d'accès à l'extérieur. Le niveau 3, c'est en immeuble, mais avec un balcon, une terrasse, une cour. Le niveau 4, c'est un petit jardin comme Joseph Chauffret sur 300 mètres carrés. Il peut nourrir sa famille en légumes pour toute l'année. Et puis, le niveau 5, c'est entre 350 mètres carrés et 5000 mètres carrés. Et puis, le niveau 6, c'est ceux qui ont du territoire, ceux qui ont de la terre, quoi, qui ont un hectare ou plus. Et donc, si vous prenez ces 6 cas de figure, eh bien, aujourd'hui, nous avons des connaissances. Et là, je vois dans toute la bibliothèque des livres de Terre Vivante, il suffit de regarder les auteurs, toutes les techniques sont là. Donc, ce n'est pas un problème technique, c'est un problème d'organisation et de vision. Et donc, ce que nous allons proposer, c'est d'accompagner les expériences avec des auteurs pour expliquer, si vous êtes dans la situation de l'agriculture verticale où je ne peux pas accéder à, à un balcon, je peux faire des semis derrière la fenêtre, mais pour cultiver, je vois un exemple, c'est à Paris, dans le 14e, il y a graines de 14e, eh bien, les gens réapprennent à cultiver des céréales anciennes pour faire leur pain. Ben, vous imaginez la joie de votre premier kilo de grains cultivé dans des jardinières sur une terrasse et de faire votre premier pain, votre première farine, votre premier pain. Mais c'est magnifique. Et si vous allez sur le site de Graines de 14e, dans le 14e arrondissement, il y a eu les incroyables comestibles. Maintenant, il y a tous ces mouvements d'agriculture urbaine autonome. Et eh bien, vous verrez que c'est dans des bibliothèques municipales où il y a des grainothèques. Maintenant, ce sont dans des cours d'école, ce sont dans des parties d'espace public. Sur des petites actions, les gens sortent de la consommation individuelle isolée et se retrouvent dans des collectifs d'entraide et de partage. Et ça y est, c'est parti. Donc, on dit toujours, l'autonomie alimentaire, c'est l'affaire de tous. Ça s'apprend et ça s'organise. Donc, la première chose à faire, c'est de s'informer, d'observer et de franchir le pas pour apprendre à être coopératif. Donc, un des plus grands enjeux, c'est peut-être ça, c'est d'aller vers l'autre et d'apprendre à partager, coopérer.
Alors, pour terminer, quelques mots sur cette université francophone de l'autonomie alimentaire. On ne peut pas s'imaginer un campus à l'américaine avec des diplômes. C'est plutôt à la fois connecté à la Terre et virtuel, en quelque sorte.
En fait, c'est un centre...
Un centre de ressources partagées.
Oui, c'est un centre, ce n'est pas un bâtiment. Ouais, en fait, c'est un site Internet qui fait centre de ressources et donc qui permet d'offrir justement les éléments de cette vision, de cette organisation, à la fois politique et sociale, un peu comme on l'a décrit tout à l'heure avec les 21 actions, et aussi la permathérapie, et aussi l'agrégation de groupes Facebook.
Oui, c'est ça, vous fonctionnez beaucoup avec l'outil Facebook.
Voilà, parce que c'est
chacun, à la fin de l'écoute de l'épisode, peut essayer de regarder s'il existe un groupe.
Oui.
Facebook,
déjà dans sa région.
Dans sa région.
Voilà. Et puis ensuite son département, et puis après dans sa ville. Et là, une personne seule, du jour au lendemain, en 8 jours, elle peut avoir constitué un groupe grâce aux réseaux sociaux. Et on a eu le cas de Claire Moquier qui est rentrée de Taïwan, où elle a animé l'Agora d'agriculture urbaine à Hsinchu, la deuxième ville après Taipei. Et après 4 ans, où elle a généré 4 forêts comestibles dans la ville, c'est 150 000 habitants, eh bien, elle arrive dans le Lot et elle dit ben, « Écoute, moi, je participe à l'université francophone, mais je suis toute seule dans mon département. Comment je peux faire ?» Eh bien, on a créé un groupe autonomie alimentaire Lot, donc niveau 5, dans le 46. On a lancé un appel à la communauté des 28 000 participants autonomie alimentaire France, niveau 6. Et là, il y a 15 personnes qui ont dit « Moi, je suis du Lot ». Je suis partie prenante, je veux participer. Ils se sont donné un rendez-vous à Cahors. Ils ont fait le tour de la ville, ont proposé à la municipalité de faire une agora d'agriculture urbaine sur plusieurs scénarios. La ville a dit oui. Et la semaine dernière, ils ont inauguré l'agora avec les premiers jardins partagés d'agriculture urbaine au cœur de la ville. Et donc, la communauté de Cahors, du Lot, c'est parti. Et donc, ce que je viens de dire là, les 100 départements français, même les DOM-TOM, en 8 jours, ça peut démarrer.
Ouais, c'est vraiment du concret. Donc, on l'a compris, inutile d'attendre que ça vienne d'en haut. C'est oui. Vraiment chacun d'entre nous, avec son talent à offrir à sa communauté, qui peut créer ce mouvement positif vers l'autonomie alimentaire. Donc, à nous de jouer en nous inspirant de votre expérience, notamment. Comment faire pour vous suivre et voir où en sont vos actions?
Eh bien, c'est simple. Il y a le site autonomiealimentaire.info, qui est le portail internet de l'université francophone. Et là, les gens vont trouver un onglet où il y a les groupes Facebook territoriaux et thématiques dans 40 pays à peu près, et puis tous les groupes de France et tout ça. C'est notamment, il y a des entrées par le groupe France, les groupes régions. On a même un groupe guide de l'autonomie alimentaire avec les lecteurs du livre. On est à peu près 10 000. Et donc, il y a du monde. On n'est pas seul. Et puis, il y a des tutoriels à télécharger en libre accès avec des films qui sont à la disposition de tous. Tout est en open source. Donc ça, c'est le meilleur moyen. Et comme c'est du blog, les gens peuvent écrire sur les pages et poser des questions, on répond. Et puis, sur Facebook, eh bien, on accueille tout le monde sur la communauté francophone, Autonomie Alimentaire France. On est vite accueillis par tous les membres qui sont dans cet esprit de partage.
Merci beaucoup à tous les deux.
Merci, merci à vous.
Merci.
Et au plaisir de se retrouver les mains dans la terre.
Voilà.
Ou à la cuisine.
Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Champ d'Action sur le site champdaction.org ainsi que sur les principales plateformes de podcast. Champ d'Action est le podcast de Terre Vivante, maison d'édition et centre écologique qui se lie autant qu'il se visite. Pour être tenu au courant de la diffusion des prochains épisodes, suivez-nous sur les réseaux sociaux avec les mots-clés Champ d'Action Podcast. À bientôt.